Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Objectif Startup sur Cowork la radio, l'émission, vous l'avez compris, consacrée aux startups. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'entreprise WeMaintain. Et pour ce faire, je reçois son cofondateur et CEO, Benoît Dupont. Bonjour.
Bonjour.
Ça va ? Vous allez bien ?
Très bien. Très bien.
Alors, pour commencer déjà, quel est le métier de WeMaintain ?
C'est une bonne question. Comme son nom l'indique, on transforme la maintenance professionnelle au départ du moyen de transport le plus utilisé au monde, qui est l'ascenseur. Beaucoup de gens ne le
ah
savent
oui,
pas.
Le plus utilisé au monde, ça
vous m'apprenez. De très loin, ouais. Encore plus en Covid, tout le monde continue à l'utiliser alors qu'on a arrêté de prendre nos voitures, le train et l'avion. Et plus largement, en fait, on s'inscrit dans le smart building, puisque depuis le départ, on a en tête l'idée de simplifier et de fluidifier un petit peu toutes ces opérations complexes de maintenance. Et plus largement, les équipements, on parle de l'ascenseur, de la sécurité incendie, la clim et du chauffage, sont réglementés un peu partout dans le monde. Ouais. Donc ça en fait un métier qui, si on ne connaît pas l'industrie, a l'air assez peu sexy, mais si on creuse, est un marché énorme, inexploité, très peu de technologie. Et donc plein de choses à faire.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire, vous l'avez rendu un peu glamour. Parce que bon, après, quand on ne connaît pas spécialement les ascenseurs, tout le secteur, on ne se rend pas compte en fait qu'il y a toute une maintenance derrière. C'est quoi exactement en fait ?
En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, moi je suis rentré dans cette industrie en premier job. On est trois cofondateurs dans la boîte, j'ai fait la partie un peu boring industrielle. Mais finalement, je suis rentré dans ce secteur, pas par amour de l'ascenseur, parce que personne n'est pas forcément ne connaît ça. Mais par contre, on se rend compte que c'est un marché, comme je disais, gigantesque. Le gros de l'activité, finalement, c'est pas la construction, c'est la maintenance, qui a continué d'ailleurs à évoluer l'année dernière. Et en fait, donc c'est un marché de plus de 30 milliards d'euros. C'est vraiment un très, très gros marché.
Parce que la maintenance, juste un ascenseur, en fait, on est obligé de le vérifier tous les ans.
Alors, c'est toutes les 6 semaines.
Toutes les 6 semaines, d'accord.
De manière générale, dans le monde, c'est tous les mois. Et c'est obligatoire à travers le monde. C'est ça qui est aussi intéressant. Mais du coup, c'est un secteur qui est gigantesque, qui est trusté par 4 acteurs industriels qui ont eu un succès énorme. C'est des boîtes qui ont tous passé la centaine d'années d'existence, donc de vrais très gros succès industriels. Et finalement, pas vu comme un secteur stratégique. C'est-à-dire que finalement, on ne se rend pas compte que c'est le moyen de transport le plus utilisé au monde. On a l'impression que c'est une blague, mais c'est une réalité.
Ouais.
Et finalement, ils se sont implantés partout, exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'un ascenseur d'un constructeur originaire d'Europe ou des États-Unis va faire le même produit partout. Et donc là où c'est intéressant, c'est que du coup, ils se sont vraiment implantés à travers le monde avec exactement les mêmes technologies, exactement les mêmes processus. Mais comme c'était des boîtes tellement énormes, ils ont pu finalement un peu truster le marché et faire un espèce d'oligopole au détriment de la qualité de ce qu'ils pouvaient faire en maintenance.
Ouais.
Et donc moi, j'ai découvert ça de l'autre côté.
Est-ce que vous travaillez pour un de ces groupes ?
Alors moi, j'ai travaillé...
Rotis pendant deux ans ?
Exactement, j'ai travaillé... Donc, la maison mère qui s'appelle Unity Technologies avait dans son portefeuille de l'aérospace et du bâtiment. Et moi, je me suis occupé effectivement de la partie maintenance sur le bâtiment chez Rotis. D'abord en Europe pendant 2 ans et ensuite pendant 8 ans en Asie. Chine dans un premier temps, puis après Asie du Nord. Et donc j'ai découvert ce marché incroyable. Comme je disais, 30 milliards d'euros. Surtout des niveaux de marge... plus important que des groupes de luxe. Quand on vérifie ça, c'est comme l'ascenseur, il faut regarder les chiffres.
On ne s'en rend pas compte, en fait.
On ne s'en rend pas du tout compte. Et finalement, c'est un marché oligopolistique, immense, très, très peu de changements qui a été fait pendant des années. Et surtout, le pain qu'on règle, parce qu'au final, si WeMaintain existe aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème réel à régler, c'est que la manière dont ces succès industriels ont évolué dans le temps, si on prend la chaîne de valeur de cette partie maintenance... Finalement, c'est passer toutes les 6 semaines faire de la maintenance, ça paraît assez simple et facile à faire. Mais la manière dont ça rend, où c'est plus compliqué, c'est que finalement, quand on a quelqu'un qui est coincé en cabine, j'espère que ça vous est jamais arrivé.
Non,
ou qu'il y a une panne intermittente qui arrive, par définition, elle n'est pas prévisible. Et donc, la maintenance organisée, c'est simple. La partie non prédictible...
C'est pas une question de mauvaise prise en... Fin...
Oui et non, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un faux contact,
il
peut y avoir de la pluie dans un immeuble parisien et une inondation de la cave, par exemple, qui fait qu'il y a un court-circuit. Il y a plusieurs sources externes et donc malheureusement, ça restera toujours source de problèmes. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à prendre le dessus et à pouvoir le gérer. Donc la manière dont les ascensoristes se sont organisés pendant des années, et après je parlerai du reste du bâtiment, mais sur la partie ascenseur pur, c'est finalement un petit peu comme des banques. C'est-à-dire que vous avez des agences bancaires pour faire de la partie servicielle sur les banques. Sur la maintenance, c'est la même chose. Vous avez des agences physiques un peu partout dans les villes à travers le monde qui peuvent, à travers ces systèmes un peu coûteux, organiser la partie service et maintenance. Donc ça, c'était l'ancien monde.
Et justement, quand vous disiez qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, c'est sur quoi ces changements, en fait ?
C'est très compliqué. En fait, s'il faut s'implanter sur un modèle traditionnel et qu'on n'a pas la chance d'être au bon endroit au bon moment comme nous et d'avoir la technologie et de pouvoir l'utiliser, pour pouvoir concurrencer un de ces quatre acteurs qui est là depuis 100 ans, il faut acheter des locaux ou louer des locaux. Ouais. Il faut avoir des équipes techniques très, très, très complexes. Et il faut gérer ça de manière un petit peu avec des outils à l'ancienne, on va dire. Donc finalement, il n'y a aucune même très grosse PME en France qui a pu aller s'implanter à Londres comme ce qu'on a pu faire ou comme on l'a annoncé plus récemment en Asie. Parce que c'est compliqué, c'est des modèles industriels, capitalistiques. Donc c'est vraiment complexe. La première chose qu'on a réussi à faire du coup, c'est de se dire comment est-ce que la technologie peut nous permettre de simplifier un petit peu ce modèle, de plus avoir autant d'agences à créer. Et surtout, le fond de toute cette problématique, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'un technicien va passer, on va dire, toutes les 6 semaines. Mais il a, dans l'industrie, pendant des années, l'oligopole a rentabilisé son modèle, je parlais des marges importantes, a rentabilisé en augmentant le nombre d'ascenseurs par technicien. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait depuis 40 ans, plus de 40 ans, au détriment du coût de la qualité de la maintenance qui était faite de l'autre côté.
Et donc, plus la quantité que la qualité, au
exactement.
Final.
Et donc, effectivement, c'est intéressant, parce que financièrement, ça rentabilise le modèle, c'est facile, ça fonctionne. Le problème de fond, c'est que quand on est allé trop loin,
sur la durée,
et que c'est que des groupes cotés, ça ne fonctionne plus. Et donc, la raison pour laquelle on peut exister aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème opérationnel, c'est que c'est compliqué, c'est réglementé, c'est technique, et c'est un marché énorme. Donc, penser qu'on peut concurrencer ces boîtes-là sans technologie, c'est impossible. À partir du moment où on a de la tech, on peut réfléchir différemment et on peut repartir de cette chaîne de valeur de maintenance et réfléchir à est-ce que la technologie peut nous permettre de transformer ces boîtes. Et c'est ce qu'on a fait avec Community.
Et la technologie, c'est quoi concrètement ?
Donc y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de dire comment je vais remplacer toutes ces branches en physique. Pour une raison assez simple, c'est que ça me permet de scaler mon modèle, c'est-à-dire de le déployer très rapidement. Mm-hmm. On s'est lancé, par exemple, après Paris, à Londres l'année dernière, en pleine pandémie. Sans aucun problème, puisque la technologie nous permet de déployer ce modèle. Donc l'étape 1, c'est de dire, on crée un système qui va permettre de remplacer un peu toutes ces agences en physique via un outil technologique. Quoi de plus efficace que la tech et que l'algorithme pour remplacer tous ces problèmes complexes de « j'ai une panne qui tombe à tel moment, j'ai une personne coincée ». Il suffit d'avoir un système qui est bien pensé technologiquement et qui va permettre de régler l'ensemble de ces problèmes-là beaucoup mieux que des agences physiques avec des personnes.
Et ce système, c'est vous qui l'avez créé ?
Exactement. Donc là, c'est la première brique technologique de Humantine, c'est de se dire, au lieu d'avoir des agences et que ça nous coûte cher et qu'on ne puisse pas concurrencer les boîtes, on va déjà remplacer cette première étape, permettre à des techniciens, du coup, comme le coût de structure n'a rien à voir, on n'a plus les mêmes niveaux de coûts, on peut réduire le nombre d'ascenseurs en gardant le modèle rentable, et on passe de 150 ascenseurs dans l'industrie en mode traditionnel sur une ville comme Paris à peu près 80. Et 80, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le technicien a le temps de faire son job correctement, qu'il est du coup revalorisé, que le client a un service qui n'a rien à voir, et que surtout, puisqu'on rentre dans le smart building et dans l'ère de la data, il est capable, à travers ce premier operating system, de transmettre de l'information en temps réel, qui n'existe pas dans un système statique industriel, que le client n'a jamais eu l'habitude de voir. C'est comme quand vous passez d'un téléphone classique à clapet à un smartphone, vous ne revenez pas en arrière. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez des informations en tant que professionnel de l'immobilier que vous souhaitiez avoir et que vous n'aviez pas. Vous étiez un petit peu résigné parce que de toute façon, il y avait 4 boîtes. Donc vous choisissez entre un des 4 gros et puis c'est tout, à travers le monde. Là, il y a une alternative crédible. Il y a une donnée que personne n'est capable d'avoir parce qu'il faut avoir créé cet outil digital pour pouvoir le faire. Et ça, c'est la première brique technologique qui fait que déjà, on a un service qui n'a rien à voir, donc on est capable de vraiment faire de la maintenance d'une manière différenciée. Et on a une data que personne sur le marché n'est en mesure d'offrir. Mis ça bout à bout sur plusieurs patrimoines, ça commence à créer ce qu'on appelle un data lake qui s'enrichit de jour en jour, de minute en minute même, et qui crée un avantage concurrentiel énorme sur cette première partie. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est que l'immobilier, finalement, c'est la plus grosse classe d'actifs au monde. Ouais. C'est 300 trilliards de dollars, pratiquement. Et on se rend compte que finalement, c'est quand même assez archaïque. C'est ce que les gens aiment bien appeler les professionnels immobiliers, ce mot en interne, on vient du brick and mortar. Et finalement, pour passer du brick and mortar au smart building, quoi de mieux que d'abord montrer que la technologie peut régler un de leurs problèmes opérationnels les plus tangibles et complexes, qui est justement ces aspects un petit peu d'opération dans le bâtiment. Et l'ascenseur est celui qui est le plus compliqué. Donc,
et ça n'a pas fait peur, justement, que la technologie régisse, justement, quelque chose qu'on connaît depuis, vous l'avez dit, la 100 ans, des groupes régissent les ascenseurs. Ça, au quotidien, ça ne fait pas peur, en fait, d'avoir trop de technologie?
C'était un premier challenge, mais... Il faut se mettre dans la place, dans la peau du client. Et en parlant deux petites minutes, le propriétaire d'immeuble, quand on réfléchit bien, si je prends un de nos clients qui est le plus gros propriétaire d'immeuble en Europe, qui est Swiss Life, un peu plus de 90 milliards d'actifs sous gestion, c'est leur business model finalement, c'est j'achète et je vends des immeubles, je vais les opérer et il y a différents niveaux de rentabilité qui peuvent se créer via l'opérabilité et via la transaction de cet immeuble. Mais l'Europe, c'est 96% d'immeubles existants et 4% d'immeubles neufs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'achète et je fais des transactions immobilières, je ne choisis pas l'équipement qui est dans mon immeuble.
Et je peux, en revanche, l'améliorer.
Déjà, je peux l'améliorer avant, en tout cas, We Maintain, en termes d'opération, c'est compliqué. C'est-à-dire que je vais avoir, 300 immeubles en Europe, 20 marques d'ascenseurs différentes, 20 marques de clim différentes, 20 marques de sécurité, système de sécurité incendie différents. Et ça rend l'opérabilité de mes immeubles extrêmement compliquée. Mmh. Pour une raison très simple derrière, c'est que je vous ai parlé des groupes industriels au départ. Chacun de ces groupes industriels a créé des produits industriels avec un vrai succès. Et du coup, ils se sont implantés un petit peu partout dans ces immeubles de manière assez hétérogène. Et leur manière aujourd'hui d'appréhender le smart building et le digital se fait en silo, comme ils l'ont fait en silo industriel. Si je prends les quatre marques d'ascenseurs, chacune de ces quatre marques va essayer de faire sa plateforme, va essayer de faire son objet connecté, va essayer de rentrer dans l'ère du digital avec une approche et une ADN très industrielle. D'accord. Donc ça, ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui était déjà un peu pris en étau entre différentes boîtes industrielles et des produits industriels se dit, mais c'est en fait, si c'est juste pour repasser dans l'ère du digital et avoir le même problème, ça ne sert à rien. Donc nous, ce qu'on a, en écoutant ces clients-là, la première étape, c'est de dire, on va vous montrer qu'on peut, comme je viens de l'expliquer, grâce à un operating system, vous rendre de la qualité dans ce que vous essayez d'avoir dans vos actifs. La deuxième chose qu'on a créée en briques technologiques, c'est un outil de hardware, mais essentiellement du software, donc un boîtier connecté sur la partie hardware, qui va permettre de faire quoi ? Qui va permettre de se mettre sur l'ascenseur, en l'occurrence, ou sur un système de sécurité incendie, ou sur une clim demain, et connecter n'importe quelle typologie d'équipement existant. Ça veut dire que sur les 30 marques différentes d'ascenseurs sur ce portefeuille dont je parlais tout à l'heure, il peut tous les reconnaître. Les techniciens peuvent gérer l'ensemble de ces actifs grâce à la technologie et à leur savoir-faire. Je rappelle que We Maintain, on est une entreprise à mission. La mission, c'est mettre le meilleur de l'humain et de la technologie au cœur des immeubles. Donc on part du brick and mortar, on règle un peigne opérationnel et on entre dans le smart building grâce à ces données avec un modèle qui a fait ses preuves déjà opérationnellement et que les professionnels immobiliers comprennent. Ils voient des centaines de start-up aujourd'hui chaque année. Et souvent, ce qu'ils nous disent, c'est un petit peu « Ok, vous avez une plateforme, vous avez quelque chose comme ça, mais so what quoi ? Qu'est-ce que ça règle dans mon quotidien ? Comment je fais pour transitionner d'un actif qui évolue et est en train de changer à quelque chose qui va ressembler au smart building ? » Et franchement, personne n'est très, très clair là-dessus et c'est normal. Et je pense que de partir d'une approche très opérationnelle et de rentrer petit à petit vers la data rassure, et c'est pour répondre à votre question, c'est ce qui fait que ça a rassuré nos clients.
Ça a rassuré, au contraire.
Alors après, au début, ils nous ont tous dit, allez-y.
Faut voir ce que ça donne. C'est ça.
Allez-y. Mais
parce qu'il n'y avait pas de recul, en fait.
Il y avait zéro. On est les premiers à le faire.
Et comment vous avez réussi à remporter des marchés aussi importants, que ce soit à Londres, DLR, Allianz, là, vous parliez de Swiss Life, Allianz Real Estate, WeWork en Ile-de-France. Ouais. Comment ça a été possible alors qu'il n'y avait aucun recul ? Vous étiez quand même nouveau face à ces monstres qui sont là depuis des centaines d'années, centaine d'années.
Oui. Je pense que la première chose, et je remercie d'ailleurs tous nos clients parce qu'on travaille avec un peu plus de 150 des très grands comptes internationaux. La première chose, quand on est arrivé en 2018, on est trois cofondateurs, je le disais tout à l'heure, et on a une particularité, c'est qu'on a tous les trois vécu à l'étranger pendant assez longtemps.
Donc vous en Asie ?
Moi j'étais en Asie, Tristan qui est notre CTO, qui gère toute l'équipe de tech, de développeurs, a vécu à Londres, en Inde, et travaillé là-bas et à San Francisco, comme tout bon développeur. Et Jade Francine, elle est indienne d'origine, elle a fait ses études aussi entre la France et la Chine, puisqu'elle a fait un master de droit chinois à l'université de Pékin, ce qui est assez rare pour un profil français. Et elle a travaillé en France, en Inde et en Chine. Et on s'est rencontrés en Chine, et avec Tristan, on s'est rencontrés en Inde. Donc on était déjà assez internationaux.
D'accord.
On voulait au tout début lancer plutôt l'Asie, puisqu'on a des villes, on vient d'annoncer Singapour,
ouais.
C'est des villes-états très denses, très verticalisées,
ouais.
Et donc on s'est dit marché parfait. Et finalement on est venu en Europe pour une raison assez simple, c'est que quand on regarde les PropTech, 76% des licornes sont américaines et 24% sont chinoises. Fait le calcul, zéro en Europe.
Ouais.
Même si on a vécu à l'étranger pendant assez longtemps, on se sent profondément européen. Et quand on voit le duopole dont on entend parler maintenant partout, mais qu'on voyait déjà, nous, depuis assez longtemps, entre la Chine et les États-Unis, surtout la Chine, enfin, mm-hmm. L'hégémonie de la Chine est assez incroyable pour avoir, encore une fois, vécu 8 ans sur place. Le monde est en train de changer. Et on s'est dit, à notre petite échelle, au moins si on part d'Europe et qu'on essaie de faire quelque chose et de créer une des premières boîtes à taille de taille importante, hein, le fait de juste parler de licorne, c'est pas ça qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on va garder une hégémonie technologique qu'on a pu connaître en Europe depuis les années 30. Comment est-ce qu'on va utiliser ce formidable outil qu'est la tech pour en faire quelque chose d'intéressant. Mmh. Donc on est revenu en Europe et on a dit à nos clients, on connaissait personne en 2018, on rentrait tous les trois à l'étranger. Vous savez que dans l'immobilier, c'est quand même important d'avoir un peu de réseau.
C'est important, oui.
Donc on a été effectivement dans les organisations. Et pareil, la tech permet aussi d'avoir des manières de se faire connaître qui sont, ouais, un peu plus efficaces que de manière traditionnelle. Et on a dit à tous nos clients, ne nous croyez pas sur parole. On a un modèle disruptif, mais ça répond vraiment à votre pain. La seule chose qu'on vous demande, c'est donnez-nous une chance. Laissez-nous tester. Si on ne le fait pas, c'est simple. Ce qui m'empêche de dormir encore aujourd'hui, c'est qu'un Américain ou un Chinois copie notre modèle, lève beaucoup plus d'argent et qu'on se retrouve encore un petit peu comme les dindons de la farce. Où on a,
et ça serait possible ?
De moins en moins. Et on s'attelle à ce que ce soit le cas. Plus on va vite dans une boîte de tech et plus on déploie le modèle, d'où, ouais, l'intérêt aussi de se financer par levée de fonds, plus on crée une barrière technologique à l'entrée qui est très compliquée à rattraper. Et après, les immeubles étant physiques, quand on a gagné un marché sur plusieurs villes dans le monde, avant de se faire remplacer... Donc il y a un enjeu de quand même, il y a un enjeu de rapidité
d'exécution,
ouais. Exactement.
Et du coup ça vous stresse, parce que vous disiez vous n'entendez pas la nuit.
On arrive en Europe dans un marché où finalement la tech est assez mal vue,
ouais.
L'immobilier n'a pas du tout.
C'est vrai que par rapport à l'Asie, c'est plus en Europe on est plus réticent.
Ça n'a rien à voir. Et aux États-Unis encore plus. C'est-à-dire qu'en fait,
ah oui,
en gros, les Européens ou les États-Unis ont une idée, la Chine la copie et l'Europe la régule, quoi.
Ouais.
C'est un petit peu ce qu'on,
d'accord,
voit en permanence. Mmh. Et c'est dommage parce que je pense qu'on a des talents exceptionnels. Je parle de ça il y a 3 ans. Hein, je parle quand on est arrivé. Ça a quand même beaucoup, ouais, ça a beaucoup évolué. Mais là où je trouve que finalement, et la preuve, c'est que nos clients nous ont quand même fait confiance sur un actif dans un premier temps, la première année, assez massivement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients qui nous ont donné un ou deux actifs. Et au final, une fois qu'ils ont testé vraiment ce modèle, qu'ils se sont rendus compte que ça réglait leurs problématiques, et qu'ils se sont surtout rendus compte que, étant des grands propriétaires institutionnels, à partir du moment où je vais devoir digitaliser mes immeubles, si j'ai une solution qui me permet, en un claquement de doigts, j'ai envie de dire, de connecter tout mon patrimoine, plutôt que de devoir essayer de payer une solution technologique éventuelle qui vient se connecter à tous mes actifs les uns après les autres avec les problématiques de mise en place, etc., bah finalement, le modèle, ce qu'on appelle end-to-end de WeMaintain, fait sens. Et donc, ils ont testé ça de manière très pragmatique, avec d'un côté certaines solutions qui permettaient juste d'essayer de se connecter en mode pure plateforme, et les industriels existants, donc ils ont essayé de connecter ça, et ils ont testé notre modèle en parallèle. Et c'est ce qu'on leur avait dit, on dit soyons pragmatiques. Hein,
vous avez joué le jeu, vous avez mis une carte sur table, testé, et puis vous verrez.
Exactement. Et on était assez confiants sur le fait que la tech nous permettait de faire les choses différemment. Et donc, au lieu d'avoir un immeuble connecté avec, encore une fois, le pilote dont je parle, en l'occurrence, c'était WeMaintain met en place, on met des boîtiers, on se connecte immédiatement, peu importe la typologie de marque. Et le client, en quelques semaines, a tout son dashboard en temps réel qui tourne et ça fonctionne.
D'accord.
Les techniciens au moins l'ascenseur, ça se passe super bien.
De l'autre côté, plus fluide, plus rapide.
Ouais, plus fluide, plus rapide,
plus
transparent
qualité.
En temps normal. Revalorisation aussi du technicien,
ouais,
humain, puisqu'on crée, c'est quelqu'un qui est dédié à son immeuble. On va créer une relation avec lui. Il va être là pour nous aider dans les problématiques. Et en face de ça, 8 mois de pilote dans l'autre mode, toujours pas connecté parce qu'ils n'ont pas réussi à se connecter à tous les protocoles propriétaires des boîtes en face. Et finalement, le client qui revient chez nous et qui nous donne l'ensemble de son patrimoine. Donc, sur votre question de pourquoi est-ce qu'une boîte comme Allianz, qui est quand même une assurance allemande, on peut s'autoriser à se dire que ce n'est pas des gens qui sont très start-up friendly.
C'est vrai.
Ils sont par contre très pragmatiques. Et donc, ils ont testé notre solution. Ils ont vu que ça fonctionnait.
Ouais.
Et ils nous ont finalement transmis l'ensemble de leur patrimoine. Et de plus en plus, c'est ce qui est en train de se passer.
Oui, parce qu'après, ça fait effet boule de neige, forcément, j'imagine.
Ouais. Je pense que c'est la vraie chance de la technologie. Hein, c'est qu'on peut aller très, très vite. Et donc, les gens peuvent tester la solution.
Ouais.
Et à tous les gens qui étaient un petit peu réticents, on leur disait...
À montrer, ça marche.
Tester. Vous pouvez partir, effectivement, en Europe, hein, on est quand même culturellement beaucoup plus réticents qu'aux États-Unis ou qu'en Asie. Et c'est comme ça. Je pense qu'on ne peut pas le changer. Par contre, ce qu'on peut juste dire, c'est... pas de problème à être réticent, mais donnez-nous un actif et on verra ce que ça donne. Et ça, franchement, la grande majorité des clients ont joué le jeu et c'est bon signe pour les startups européennes.
Une chose qui vous a permis de devenir incontournable, parce que maintenant, on peut le dire, vous êtes incontournable sur le marché de l'ascenseur, c'est les levées de fonds.
Oui.
Il y en a eu deux. Une première en 2019.
Il y en a eu une toute petite avant.
Ouais, 1,8, c'est ça. Million.
Amorçage, puis, plutôt family office. Et après, effectivement, les fonds investissement.
7 millions d'euros.
Ouais, c'est ça. 7 en 2019. Et on vient d'annoncer une série B de 30 millions d'euros.
Et vous allez vous diversifiez, du coup.
Ouais.
Après les ascenseurs, l'incendie.
Exactement.
Expliquez-nous déjà, comment ça s'est passé la toute première.
Exactement. Donc... Première chose, c'est quelle est la vision de la boîte depuis le départ? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Je vous l'ai dit, on essaye vraiment.
Déjà, comment c'est venu cette idée? Ouais. Vous êtes diplômé d'Harvard, vous avez travaillé, on l'a dit tout à l'heure, 12 ans chez Otis. C'est à ce moment-là, donc voilà, en Asie, vous vous êtes rendu compte que ces quatre monstres avaient le monopole, mais que c'était pas forcément très quali. Que ça devenait de pire en pire, justement, que c'était assez vieux, en fait, leur technique était assez vieille. Mmh. Donc là, vous êtes déjà en relation avec vos cofondateurs, les autres cofondateurs, comment ça se passe?
Ouais, alors, moi, j'ai toujours voulu travailler ou créer ma boîte, j'ai toujours voulu être dans l'entrepreneuriat. Je pense que, par contre, la base de la stratégie pour moi, c'est d'être au bon endroit au bon moment, et on a la chance de notre génération d'être au bon endroit dans le moment.
Donc il y a une part de chance en fait.
Bien sûr, évidemment, il faut savoir la saisir, mais évidemment il y a une part de chance. C'est-à-dire, on est dans une révolution, les années 30 qui étaient une révolution industrielle déjà incroyable, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est la transformation de l'ensemble des secteurs d'industrie et de services et autres à travers le monde entier, peu importe le secteur. Et même une transformation profonde des sociétés dans le sens plus large. On le voit avec des hommes politiques qui sont élus dans des conditions complètement incroyables,
bien
par
sûr.
Exemple, que ce soit la France, les États-Unis ou ailleurs. Ce n'est pas anodin. C'est la technologie, la transition. On en reparlera dans quelques années. On se rendra compte que c'est ça qui a... On est dans cette période de transition où on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, tout est possible. Et donc, c'est vrai aussi dans la partie entreprise, entre guillemets, ou milieu professionnel. Et on se rend compte que... moi, j'avais toujours envie de monter une boîte. Et en fait... J'étais passionné aussi par... J'ai un parcours, j'ai un nom très franco-français, parce que je m'appelle Benoît Dupont, mais je suis né en Allemagne, j'ai grandi en Afrique pendant assez longtemps, pendant 10 ans. Je suis retourné en Allemagne, et en effet, j'ai fait mes études d'abord...
Où ça, en Afrique ?
J'étais au Cameroun et au Maroc. Et ensuite, j'ai fait mes études, effectivement, en Europe, et après aux États-Unis, comme vous le montriez tout à l'heure. Et en fait, je suis parti en Chine, parce que je me suis dit, à l'époque, c'était un Eldorado, un peu. C'était le début aussi des années 30 chinoises. Et je me suis dit, s'il y a un truc à faire, c'est là-bas que ça se passe, le temps que trouver peut-être une idée d'entrepreneuriat. Et en effet, je suis rentré dans ce secteur d'activité qui ne m'intéressait pas du tout au premier abord. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai creusé un petit peu, c'est les groupes cotés. Donc j'ai vérifié un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. À l'époque, j'avais LVMH et Otis. LVMH, 19% de ROS, Otis,
23%.
Et comment c'est possible
compte, hein,
qu'une
dingue.
Boîte d'ascenseur fasse plus de profit qu'une boîte de luxe? Et donc, il suffit de creuser le modèle. Et donc, c'est comme ça que j'ai travaillé. Ils m'ont donné aussi, c'est une boîte américaine, hein, où ils ont donné la chance de pouvoir aller en Asie assez rapidement. Et donc, je devais rester 3 ans.
C'est plus facile dans les boîtes américaines d'évoluer comme ça, de partir?
Alors, je pense que c'est plus simple, oui, encore aujourd'hui, parce qu'il y a un certain pragmatisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire 3 ans dans un job pour pouvoir passer d'une étape à l'autre. C'est très pragmatique. C'est voilà vos objectifs.
Vous les faites ou vous ne les faites pas, peu
importe votre âge, votre couleur, votre sexe, etc. Donc, couleur de peau, votre sexe. Donc, ça c'est quand même c'est la grande force. Je parlais tout à l'heure de la réticence européenne. C'est la grande force des États-Unis. Maintenant, encore une fois, on ne va pas changer l'ensemble de l'Europe. Il y a d'autres choses très bien aussi.
Ouais, bien sûr.
Ça, c'est un problème, en effet. Et donc, ils m'ont donné une chance de pouvoir partir en Asie. Je l'ai saisi aussi, parce qu'il faut se débrouiller quand on arrive là-bas, on ne parle pas mandarin, qu'on
ne
comprend rien,
ouais.
Qu'on est basé dans une ville qui s'appelle Tianjin, où il y a 9 millions d'habitants, il n'y a rien à faire, donc on apprend le mandarin, donc ça c'est top. Et donc j'ai commencé là-bas, en découvrant justement un peu, en plein milieu de la première ascension, juste après les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, donc la Chine commençait un peu à prendre son envol. Et d'ailleurs, je crois que c'est 250 ans ou 300 ans, la Chine avait 30% du PIB mondial. Xi Jinping, aujourd'hui, son intérêt, c'est de revenir à ça. Donc,
d'accord.
Juste pour dire son plan de 2049.
Ses objectifs.
Vision long terme. Et je parlais tout à l'heure de nous aussi sur notre vision long terme. Je pense que c'est très important pour la tech en Europe d'avoir des fondateurs qui se posent ce genre de questions. Ouais. C'est pas simplement son petit intérêt perso.
Plus ambitieux en Chine.
Ils ont une vision beaucoup plus large, à très haut niveau. Et c'est plus facile aussi quand c'est, on va dire... plus centralisé comme ce qu'ils ont. Il y a quand même un régime qui est très compliqué. Heureusement que je suis parti depuis, mais ça reste... Mais par contre, donc j'ai vécu une période fascinante parce que je vis un peu les 30 glorieuses chinoises à partir de 2008 jusqu'en 2016, donc 8 ans sur place. Et là, par contre, en plein milieu aussi de cette transformation digitale. Et là-bas, ils passent directement à la version tout smartphone, tout digitalisé. Les paiements sans contact, mais ça fait des années. Oui, là, on voit dans les restaurants en ce moment
ça
en France les QR codes pour avoir un menu, mais ça fait 10 ans que ça existe en Chine et que tout le monde n'utilise que ça.
Mais ils ont un temps d'avance sur nous là-dessus.
Ils ont un temps d'avance, ils n'ont pas un temps, ils ont une décennie d'avance. Ouais. Et ça, mis à l'échelle, c'est quand même assez flippant. Et donc, quand on se rend compte de ça et qu'on est en plein milieu de cette transformation, et qu'en plus, entre-temps, je parfais mes armes et je comprends un peu mieux ce qui se passe dans cette industrie. Je me dis, il y a vraiment un truc à faire. Après, j'avais pas envie.
Ça vous titillait. Enfin, il y avait quelque chose qui était, qui avait germé.
J'avais toujours eu envie de monter une boîte. Et je me suis dit, c'est le bon moment. Par contre, j'avais pas du tout envie de rester dans l'industrie parce que je me dis, c'est
pas glamour.
Voilà, j'ai donné 10 ans. J'ai envie de faire autre chose. Et c'est là où je rencontre Jade et après Tristan et je leur raconte un peu ce que je fais, etc. Et eux me disent, mais non, en fait, il faut faire ça dans cette industrie-là. Hein. C'est là qu'il faut faire un truc. Parce que ouais, tu t'es tapé 10 ans, mais c'est un avantage énorme.
Bien
parce
sûr,
que des gens qui ont ton âge, qui connaissent bien le marché, qui ont été à des postes de responsabilité sur des PNL sur place, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un vrai truc à faire. Mais par contre, on va réfléchir. Et moi, je leur dis, ma seule condition, c'est qu'on réfléchisse à autre chose et qu'on fasse un projet un peu plus
différent,
large. Et donc, on a creusé ce projet-là depuis le début et on s'est dit, en fait, l'ascenseur, c'est juste une problématique importante de l'immeuble, évidemment, mais il y en a plein d'autres, dans les métiers réglementés notamment. Et donc, on a pensé, c'est pour ça que cette pensée et cette vision de fondateur long terme est très importante. On a réfléchi directement à ce qu'on appelle les building operations, donc c'est toute la partie réglementée, et l'ascenseur est devenu un peu un cheval de Troie. Mais c'est pareil, vous posiez la question, est-ce que les gens dans l'immobilier vont nous faire confiance? Évidemment, si on était arrivé avec une vision déjà extrêmement large, on va tout prendre, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Oui,
on va vous montrer qu'on peut le faire sur le plus compliqué.
Ça,
par contre, c'est un peu la Chine qui m'a appris ça. Ils ont une pensée confucienne un peu là-dessus qui est de dire, prenez le chemin le plus compliqué et vous aurez le chemin le plus simple, ça vous paraîtra plus simple après. Donc on débarque à Paris, qui est une ville avec, comme j'ai dit, des gens qui ne sont pas forcément toujours très tech-savvy. Et on prend l'ascenseur, qui est ce qui est le plus compliqué, en premier. Avec, par contre, et ça reviendra à la question des levées de fonds, dès le début, cette vision d'explication, dès l'amorçage, les premiers gens qui ont mis de l'argent chez WeMaintain avaient déjà cette explication de ce qu'on est en train de construire. Avec cette vision long terme, mais en leur disant, on va marcher avant de courir, on va faire le plus compliqué avant de faire le plus simple, et on va évoluer petit à petit comme ça. Et donc finalement, c'est ce qui a permis à des fonds qui ne connaissaient pas non plus l'ascenseur. La PropTech, c'est un secteur qui commence seulement
à
émerger,
percer,
alors qu'il y a plein de choses à faire. Nous, on lève 30 millions dans la PropTech, c'est énorme. Dans d'autres secteurs, c'est rien du tout. Donc ça montre, alors qu'encore une fois, la classe d'actifs la plus importante du monde est l'immobilier. Donc je pense qu'on est encore au tout début. Il y a eu quelques exemples qui n'ont pas forcément très bien marché et qui, du coup, ont refroidi certains propriétaires. Mais le Covid nous a aussi aidés et en fait, on s'est financé par levée de fonds pour une raison assez simple, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et ça nous permet du coup de se prémunir...
D'aller plus vite et de se prévenir des
Américains et des Chinois qui pourraient copier ce qu'on fait.
Qui vous font peur.
Voilà. Exactement.
Donc, deux levées de fonds, une troisième et du coup, vous étendez un sécurité incendie avec l'acquisition de Shockly.
Oui.
Racontez-nous.
Oui, alors là, c'était pareil. Soit on fait de la croissance interne organique, c'est tout à fait possible. Hein. C'est un produit qui est scalable. La tech, c'est le gros avantage. Donc, côté software, aucun sujet. La question du rachat de Shockly s'est fait sur la partie hardware. C'est une entreprise c'est Olivier Kometz, qui est un ingénieur de formation, qui a travaillé en R&D pendant assez longtemps dans ce secteur aussi industriel. Finalement, assez similaire avec ce que moi j'ai pu faire de l'autre côté. Et qui a fait un peu le même constat. C'est-à-dire que soit je fais juste une plateforme qui va aller connecter des équipements, et en fait, ça va être un peu un coup d'épée dans l'eau parce que je sais ce qui se passe derrière. Et je sais que les silos industriels sont très compliqués à transformer. La seule solution pour régler ça, c'est de faire du end-to-end, c'est-à-dire de régler le pain opérationnel et ensuite de récupérer de la data et de faire une plateforme derrière. Et donc, il avait exactement la même vision. On s'est rencontrés Nous, on avait regardé effectivement M&A ou croissance organique, et en fait, la vision était alignée, le projet était identique, il avait déjà de l'avance sur la partie hardware. Donc soit on se concurrençait à un moment, soit on réfléchissait à quelque chose d'intelligent. Ça aussi, c'est souvent en Europe, on est plutôt dans des logiques où les boîtes essaient de se concurrencer, alors que parfois c'est malin de réfléchir à comment 1 plus 1 fait 5 et comment on évite les jeux à somme nulle, qui est un peu la force des Européens, où tout le monde perd. Non, on peut réfléchir à faire des solutions où c'est gagnant-gagnant. Et donc on a réussi à faire ça, ça nous permet d'accélérer. Et ça nous permet d'entrer dans cette deuxième verticale plus rapidement. Et après, pour les autres, on ne s'interdit pas de faire de la croissance externe. Mais ce n'est pas forcément notre stratégie. On reste à l'affût. Il faut trouver le bon fit. Il faut trouver des gens qui ont les mêmes visions à long terme et qui ont envie de créer quelque chose de solide et pas simplement, on va dire, une boîte qui va revendre à une boîte américaine dans 2 ans.
Et là, votre vision à long terme, ça donne quoi, justement?
Ouais, donc c'est vraiment d'être un acteur de référence dans, justement, l'entrée dans le smart building. Donc nous, c'est régler la partie building operations et derrière, ce qu'on a pu voir avec le Covid, c'est que finalement, si je reprends l'exemple encore une fois de Swiss Life, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très gros et qui ne savent pas, par exemple, le taux d'occupation en temps réel dans leurs immeubles. Ils ne savent pas quels sont les locataires et à quel moment il y a un risque pour ces locataires, de, par exemple, de partir. Et on le voit à quel point ça devient stratégique aujourd'hui dans le bureau notamment. Or, l'ascenseur et les autres actifs qu'on utilise avec notre première partie du modèle sont placés de manière très stratégique dans l'immeuble, puisque ce n'est pas les parties privatives des locataires dans lesquelles un propriétaire ne peut pas forcément récupérer de la donnée, mais c'est les parties communes. Donc l'ascenseur, on va savoir qui rentre, qui sort, qui s'arrête à quel étage, et ça nous donne une donnée qui n'a rien à voir avec la partie maintenance, mais qui permet d'entrer, comme je disais tout à l'heure, dans l'ère du smart building, main dans la main avec nos clients, en les accompagnant sur leurs problématiques du quotidien qui est aujourd'hui, en tout cas, où sont mes locataires, quand est-ce qu'ils vont partir potentiellement, qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui en ère post-Covid. Et ça, c'est la donnée qu'on peut récupérer via notre première brique maintenance et qui nous permet de rentrer dans le smart building. Donc la vision, c'est vraiment de devenir un acteur essentiel sur cet aspect building operations au sens très large et de pouvoir accompagner les propriétaires dans cette entrée dans le smart building.
Donc on en a parlé, Paris, Londres, maintenant Singapour, vous avez levé 30 millions d'euros. Quelle sera la prochaine étape?
Donc là... Europe, Asie, c'est pareil, c'est cohérent. L'ascenseur, on ne le sait pas non plus, mais le marché de 30 milliards dont je parlais tout à l'heure, c'est 43% en Europe, 42% en Asie, d'accord, seulement 11% aux États-Unis.
Ah oui.
C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est montrer que le modèle, non seulement est réplicable, mais est réplicable sur les parties les plus intéressantes du monde. Quand on rentre en phase 2 du modèle et qu'on rajoute les autres verticales, sécurité incendie, clim chauffage, en fait, on rééquilibre à peu près. Donc les États-Unis reviennent pratiquement
à 30%. La clim, j'imagine, là-bas, c'est
exactement par rapport à l'Europe. Exactement. Et donc pour l'instant, Europe-Asie, étape suivante, les États-Unis. Et donc le fonds qui nous accompagne en lead, donc qui a pris le lead sur ce tour, c'est un fonds qui s'appelle Red River West, qui est spécialisé. Donc c'est le groupe Artemis derrière la famille Pinault. Ils sont spécialisés, donc pareil, cohérence de fonds européens, tant qu'on peut le faire. Et ils sont spécialisés.
Ça, c'est important pour vous.
Il faut être cohérent. C'est-à-dire que si on décide de créer un acteur européen solide et qu'on prend des fonds chinois, russes ou américains,
on perd un peu en crédibilité.
Ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus logique. Après. Il faut aussi être logique dans le marché, il n'est pas forcément structuré de la meilleure des façons pour l'instant, mais ça évolue très largement. On commence à voir de très beaux fonds européens qui sont capables de faire des levées à plusieurs centaines de millions d'euros, et tant mieux. D'ailleurs, on a fait rentrer aussi la BPI, qui est un peu le fonds souverain français, et on critique souvent les institutions françaises, mais pour le coup, ils ont fait un travail exceptionnel sur les dernières années sur l'écosystème de start-up. Et donc, on a fait rentrer Red River West en lead pour une raison très simple, c'est que leur thèse d'investissement dans leur boîte, c'est des entrepreneurs français qui ont décidé de partir aussi aux États-Unis et d'aller développer là-bas. C'est vraiment leur thèse. Donc, on avait commencé avec Euraseo ou Idinvest, qui était très fort en Europe et en Asie. Et là, on prend Red River West, qui va nous aider sur l'étape d'après, qui est l'expansion aux États-Unis.
Bon, mais en tout cas, on vous recevra pour les prochaines actualités, parce que je pense que c'est pas fini, la croissance de WeMaintain. Merci beaucoup, Benoît Dupont. Vous êtes cofondateur, je le rappelle, et CEO de cette entreprise, WeMaintain. Première entreprise de maintenance d'ascenseur. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Objectif Startup. À très vite.
Objectif Startup. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.